Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Comment fonctionne le couple enseignement-recherche ? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur, interroge ce matin, et en particulier, le modèle français qui reposerait sur le dualisme recherche-enseignement, mais il montrera que ce modèle est plus complexe. Du fait de l'économie de l'innovation et de la compétition internationale, nous assistons à de grandes mutations et redistributions. Dès lors, comment ce dualisme, enseignement-recherche, peut-il paraître tantôt performant ou sous-performant concernant le système de l'efficacité et celui de l'équité ? Dans le monde universitaire, va-t-on vers un rapprochement réciproque ou vers une fusion des activités de recherche et de connaissances et d'enseignement ? Comment pèsent les débats sur l'entrepreneuriat universitaire ? Dans sa leçon inaugurale intitulée « La différence, la concurrence et la disproportion » en 2014, ce spécialiste du monde du travail qui s'est consacré au CNRS et à l'EHESS, à la sociologie de la création et de la consommation musicale, avant de s'intéresser au domaine de la recherche scientifique, soulignait, et je le cite, « Le rôle d'enseignant constitue le socle de l'utilité sociale certaine. L'activité de recherche est... elle, porteuse d'une valeur plus élevée, mais la réussite y est plus incertaine. Ces deux pôles sont plus fermement reliés dès qu'on peut activer la complémentarité entre la qualité du corps enseignant et celle de son public étudiant, notamment au niveau doctoral. Il s'agit au total d'enchâsser la part du risque dans l'activité aux résultats certains. Enseigner, c'est exploiter, recombiner et transmettre des connaissances acquises. Chercher et inventer, c'est explorer par tâtonnements et variations. Nous tenons ici, au plan des métiers et des collectifs de travail, une transposition possible de la séparation entre les diverses phases et tâches du travail créateur. Pierre-Michel Menger annonçait aussi, dans sa leçon inaugurale, « Dans le cours que je consacrerai aux transformations du couplage entre enseignement et recherche, j'étudierai cette dualité des actes de travail. Leur valorisation asymétrique a accru les tensions et les conflits de rôle. Dès que s'est généralisée et mondialisée la compétition entre les organisations pour élever leurs performances de recherche, pour attirer les meilleurs scientifiques et les étudiants les plus prometteurs et pour obtenir les financements concurrentiels sur projet. » Et ce sont là toutes les questions que nous retrouverons cette semaine en particulier et ce matin, bien évidemment. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Pierre-Michel Menger, La production du savoir, discipline et organisation, le 15 janvier 2016.
J'ai donné la première partie de mon cours sur la production du savoir en 2015, et je voudrais d'abord vous en rappeler quelques éléments utiles pour introduire mon cours de cette année. J'ai examiné la liaison entre des activités d'enseignement et de recherche dans les systèmes universitaires, et j'ai exploré beaucoup de données internationales, et notamment nord-américaines, puisque le système nord-américain d'enseignement supérieur est celui qui produit le plus d'analyses et de données sur lui-même. Et je partais de l'argument théorique suivant. Il est fécond de distinguer des activités dont l'exercice est assorti de chances très incertaines ou très inégales de réussite, telles que la recherche scientifique, qui sollicite essentiellement de l'inventivité et de la créativité, et des activités dont les chances d'accomplissement normales sont assez certaines, l'enseignement relevant de cette catégorie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ceci, dans l'activité de recherche, la distribution des performances individuelles, qui est évaluée par la production de recherche, sa quantité, sa qualité, son audience dans la communauté professionnelle, a un profil qu'on appelle un profil parétien. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'une distribution extrêmement inégalitaire des performances et des chances de réussite. La formule habituelle de cette distribution, c'est que 20% des chercheurs obtiennent 80% de la visibilité et contribuent pour 80% à la production significative de la science. Vous mesurez le problème. Au contraire, la distribution des performances éducatives et, disons, normales, on dira gaussiennes, c'est-à-dire centrées autour d'une moyenne, dans les activités d'enseignement, telles que ces performances peuvent être évaluées à travers les notes que peuvent donner les étudiants à leurs enseignants, ou à travers la réussite dans les parcours des étudiants, ou à travers la qualité et la profondeur des acquis d'apprentissage obtenus par les étudiants. Et puisque ces chances de réussite dans chaque activité sont distribuées extrêmement différemment, l'association de ces deux activités dans un même métier peut opérer, c'était là mon argument, à la manière d'un mécanisme de gestion du risque, au plan individuel et au plan collectif. L'activité de recherche est logée en quelque sorte, dans l'abri statutaire que constitue l'activité d'enseignant. Cette imbrication a une propriété assurantielle. Je m'assure contre un risque à travers une activité dont la réussite est relativement certaine et socialement certaine aussi. Mais la liaison fonctionnelle entre enseignement et recherche dans les carrières universitaires peut être étudiée et expliquée aussi comme un mécanisme de subventionnement de l'activité où la performance est incertaine et où les résultats sont inégalement distribués, donc la recherche, subventionnement par l'activité qui a une utilité certaine et où la performance est normale, l'enseignement. Alors, qu'advient-il de ce couplage fonctionnel entre des tâches d'enseignement et de recherche lorsque nous sommes, comme aujourd'hui, dans un contexte de compétition accrue et élargie, internationale, mondiale. Donc, dans ce contexte de compétition accrue et élargie, qu'advient-il de ce couplage fonctionnel ? Qu'est-ce qu'il provoque au sein des établissements, entre les personnels qui contribuent à cette double production et qu'est-ce qu'il en advient pour les étudiants eux-mêmes ? Dont une fraction aujourd'hui est beaucoup plus mobile qu'avant. Nous savons qu'un enseignement situé au contact de la recherche avancée a plus de valeur qu'un enseignement qui en est éloigné et qui ne fait que transmettre des connaissances qui sont produites ailleurs. Et nous savons aussi que la qualité du travail de recherche d'un universitaire varie notamment avec la qualité des étudiants qu'il peut impliquer dans son travail. Étudiants avancés, comme les doctorants, bien évidemment, qui sont aujourd'hui des contributeurs massifs à la recherche, même dans leur temps de doctorant, de plus en plus, mais aussi, on le voit mieux aujourd'hui qu'avant, les étudiants moins avancés, dans les premiers cycles, pour lesquels il existe aussi, dans certains mondes universitaires, des programmes de undergraduate research qui stimulent beaucoup de réflexion et d'analyse. Ce que nous savons aussi, c'est que l'enseignement est ce qu'on peut appeler, et j'y reviendrai plus longuement dans l'étude de cas que je présenterai plus tard, l'enseignement est ce qu'on appelle, d'après une formule qui a été employée par deux chercheurs américains, Rothschild et White, est ce qu'on appelle une customer input technology. C'est-à-dire que celui qui en est le client ou le destinataire, ici l'étudiant, introduit quelque chose dans la technologie éducative par sa valeur propre. Autrement dit, la valeur d'un service éducatif varie avec la qualité de la contribution des étudiants. Les étudiants ne sont pas simplement des consommateurs, ils sont aussi des producteurs de quelque chose. L'argument indique que l'enseignement est une activité dans laquelle la qualité des étudiants est une contribution nette à la qualité de l'établissement universitaire. Donc, ceci a une conséquence assez simple. Une partie du rendement de la formation dans les établissements est déterminée par les caractéristiques des étudiants, par cette contribution à la valeur de l'enseignement, qui est d'autant plus élevé qu'ils interagissent avec des enseignants de qualité et sur la base d'une technologie éducative de qualité. Pour le dire autrement, il sera plus facile pour les étudiants d'atteindre un niveau donné dans un établissement où les forces en présence et la technologie éducative sont de bonne qualité, et moins facile là où elle est de moindre qualité. Alors, quelles sont les conséquences pour le travail universitaire ? Les tâches d'enseignement et de recherche sont-elles donc intrinsèquement complémentaires au point de pouvoir être considérées comme génératrices de gains réciproques ? Un bon enseignant bénéficiera de l'activité pour être un bon chercheur réciproquement, ou au contraire, sont-elles suffisamment distinctes pour être séparables et spécialisables, ce qui suppose qu'elles sont effectivement rivales au sein d'un même emploi. On a associé des activités qui peuvent être dissociées et qui peut-être gagnent à être dissociées. Voilà des questions qui sont posées par les modèles que j'ai explorés. S'il en était ainsi, si les activités pouvaient gagner à être dissociées, on aurait eu bien raison de créer des corps de chercheurs spécialisés dans cette seule activité de recherche, comme ça a été le cas avec la création des grands organismes de recherche en France, à vrai dire sans équivalent à l'étranger, parce qu'à ce moment-là, il a fallu augmenter le potentiel de recherche français. Troisième possibilité qui peut exister, c'est que les tâches d'enseignement et de recherche ne sont pas complémentaires par nature ni dissociables par essence, mais elles peuvent être découplées de manière endogène et non pas a priori, c'est-à-dire en fonction de la production différentielle des individus une fois que les aptitudes, les préférences, les ressources et les contraintes qui déterminent le travail de chacun distribuent les individus sur des profils différents. Et dans ce dernier cas, une partie des individus engagés dans une carrière académique se révéleront progressivement efficaces en recherche, d'autres principalement efficaces en enseignement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai examiné les différents systèmes qui, dans les différents pays, essaient de résoudre ce problème de complémentarité. Le modèle d'organisation de l'enseignement supérieur qui est sans doute le plus stable et le plus imité est celui des États-Unis. Il est fondé sur un triple principe de stratification. Stratification des établissements qui placent au sommet les universités à forte intensité de recherche. Stratification de l'embauche et de l'emploi des universitaires qui font valoir sur un marché concurrentiel des emplois la qualité de leur recherche et de leur aptitude à enseigner pour être recrutés dans ces universités hiérarchisées par des niveaux de salaire et des conditions de travail fort différentes et par la qualité des étudiants qu'elles forment. Cette qualité étant elle-même distribuée de manière homologue, c'est précisément le troisième principe. Le principe, c'est cette sélection des étudiants en fonction de leur score à des tests nationaux, Scholarly Aptitude Test et d'autres, et en fonction de diverses caractéristiques personnelles qui figurent sur les dossiers de candidature à l'admission dans ces établissements. L'admission étant faiblement ou pas sélective du tout à la base, mais très sélective au sommet de la hiérarchie des établissements. Cette stratification explicite des établissements dans ce modèle, met donc en œuvre un très puissant mécanisme d'appariement entre des enseignants sélectionnés et distribués, notamment selon leur performance de recherche, sur les différents étages de la hiérarchie des établissements d'une part, et les étudiants qui sont eux-mêmes sélectionnés selon la combinaison de caractéristiques que retient chaque université pour les classer. L'un des points qui est important ici est que la concurrence entre les établissements se fait aussi par la qualité de leur technologie éducative. Je vais y revenir cette année parce que je n'ai pas eu le temps de traiter ce point auparavant. L'une des particularités bien connues du système des graduate studies, des études doctorales, est que ces études sont financées par les universités, je veux dire les contrats et les bourses des étudiants sont financées par les universités, il n'y a pas d'études doctorales sans bourse doctorale, hein, et qu'elles sont organisées sur la base d'un contrat avec l'étudiant. Et donc l'une des tâches de l'étudiant, c'est de contribuer aux fonctions d'enseignement et de recherche, comme teaching assistant ou research assistant. Ce modèle a fait école en France en s'y diffusant d'abord dans les écoles doctorales scientifiques des universités. On le verra agir sur les profils de recrutement quand je présenterai des données sur le système d'emploi et la totalité du système d'emploi universitaire en France sur les 30 dernières années. C'est un travail que nous faisons avec mon équipe ici au collège. Ce qu'il convient de retenir de ce modèle, de cette analyse du modèle et d'autres modèles qui s'en rapprochent, c'est que, un, la relation entre enseignement et recherche est effectivement asymétrique, puisque les universités à fort potentiel de recherche sont les plus prestigieuses, et que, deux, cette asymétrie change de profil quand on se déplace du haut vers le bas de la hiérarchie des établissements. Autrement dit, les universités de pointe à forte intensité de recherche demandent et obtiennent plus de recherche de leurs enseignants et de leurs doctorants et des contributions à la recherche de leurs étudiants undergraduate, alors que la part de recherche se réduit dans des universités moins sélectives, moins réputées, et dont le personnel enseignant et le public étudiant sont plus composites. Mais cette liaison entre enseignement et recherche est essentiellement maintenue, même là où la recherche contribue le moins à la valeur et à la réputation de l'université. Dans les recherches qui examinent si l'enseignement et la recherche sont des activités dont les performances sont complémentaires ou rivales, la majorité des universitaires adhèrent à l'hypothèse de la complémentarité. C'est ce que montrent toutes les recherches internationales qu'on peut consulter. Alors même que le temps qui est alloué à l'enseignement et aux activités impliquant l'enseignant dans la communauté éducative de son université est un temps rival du temps de recherche. Ce temps de recherche étant pourtant générateur des chances principales de promotion et de visibilité professionnelle pour un enseignant. En réalité, il y a deux manières de régler le problème. Il y a une manière normative qui est de partager le temps de travail en deux parts égales, comme en France, 50% d'enseignement, 50% de recherche, tel est le contrat. Et il y a une modalité différente, c'est une organisation et une gestion plus individualisée de cette complémentarité, autrement dit une forme de modulation non normative de la complémentarité qui crée des différences entre les enseignants et qui déclenche des systèmes de négociation et de renégociation fréquentes dans des relations bilatérales au sein des établissements entre les enseignants, leurs directeurs de département, leurs doyens, leurs collègues. Cette dernière situation est celle qu'on observe notamment aux États-Unis, mais aussi maintenant dans beaucoup de pays européens. Donc, la question qui reste en suspens, c'est est-ce que cette complémentarité est une forme de doctrine professionnelle des enseignants une fois qu'ils adhèrent au métier, ou est-ce que l'hypothèse de la complémentarité est substantielle. On peut tester les choses dans les deux directions. La première direction, c'est la recherche contribue à la qualité et à l'efficacité de l'enseignement. Ça, c'est un argument de nécessité conditionnelle. Sans recherche, pas d'enseignement possible. La recherche fournit le contenu de l'autre, l'enseignement, car le savoir évolue sans cesse et il serait évidemment impensable de transmettre aux étudiants des savoirs obsolètes, routiniers, trop éloignés du front de la recherche. En s'investissant dans la recherche, un enseignant sait actualiser et améliorer les contenus à transmettre aux étudiants pour faire apparaître les sujets neufs, les méthodes récentes et originales, et les controverses les plus productives. Maintenant, je peux retourner le problème dans l'autre sens. En quoi l'enseignement peut-il contribuer à la recherche? Alors, il y a deux arguments principaux. Enseigner oblige à contextualiser, à s'écarter du simple cheminement de la spécialisation qui, dans la recherche, permet d'explorer des questions étroitement définies et de manière cumulative. Le travail de préparation d'un enseignant lui fournit de multiples occasions de combler des lacunes dans son savoir et d'envisager les questions traitées dans des perspectives plus nombreuses et plus diverses que ne l'exige la trajectoire cumulative et spécialisante du travail de recherche. L'autre argument tient à la nature des échanges avec les étudiants. L'enseignement oblige à maîtriser les questions enseignées pour les communiquer efficacement, pour favoriser l'appropriation des contenus présentés et pour soutenir la motivation des étudiants. Il y a en quelque sorte une dramaturgie propre de l'activité d'enseignement qui suppose une réserve de connaissances et une capacité de clarification fondée sur l'aptitude à se mettre à la place d'autrui. Et il en va de même pour l'étudiant. La communication pédagogique réussit quand l'interpolation des perspectives fonctionne bien, que l'enseignement peut adopter le point de vue de ses étudiants et les étudiants entrer progressivement dans le raisonnement de l'enseignement pour adopter sa perspective. Si c'est bien ça la relation de complémentarité à laquelle adhèrent majoritairement les universitaires, alors la conception du savoir doit être ajustée. Et je veux revenir rapidement sur ces quatre espèces de savoir dont j'avais parlé, que distingue Ernest Boyer, savoir de découverte, d'intégration, d'application et de transmission. Le savoir, ou la scholarship, comme il l'appelait, de découverte, dans un livre des années 90, Scholarship Reconsidered, le scholarship, la première espèce, c'est la scholarship de la découverte, à laquelle on peut à peu près assimiler à la recherche dans son acception actuelle. C'est la production de découvertes et de connaissances originales qui augmente le stock des connaissances, mais qui a aussi une dimension quasi éthique. La recherche crée un climat d'excitation, de passion, de motivation intrinsèque, de liberté, de discussion critique à 360 degrés. C'est une activité qui est à elle-même sa propre fin et non pas une activité utilitaire, ce qui lui confère des caractéristiques tout à fait originales, tant pour les qualités qu'elle exige de ceux qui s'y consacrent que pour la manière d'organiser sa production, de manière autonome et par autocontrôle, et contrôle par les pairs. La deuxième espèce de savoir, c'est le savoir d'intégration. C'est une qualité de synthèse et d'aptitude à la pensée relationnelle qui se distingue de la puissance analytique de la spécialisation et d'une vision hiérarchique et séparatrice qui ferait du savoir une activité en silo. Autrement dit, ici, on veut dire que les savants doivent donner du sens à des résultats scientifiques isolés, notamment en les connectant à d'autres perspectives disciplinaires, y compris en les soumettant à des publics non spécialisés. C'est en quelque sorte célébrer le pouvoir de la mise en relation qui donne du sens et de la substance à toute réalité, le savoir étant une espèce de réalité. C'est une ontologie relationnelle qui a cours depuis assez longtemps, et notamment qui a été développé aux États-Unis par Whitehead, mais qui a connu un succès flamboyant dans beaucoup d'autres théories. y compris très récentes. Le savoir de découverte, le numéro 1, peut s'alimenter au savoir d'intégration. Ça, c'est l'argument du pouvoir fécondant des entreprises pluri-, inter- ou transdisciplinaires. Autrement dit, les topologies du savoir ne peuvent pas être des cartes dont chaque portion ne se définit que par une sorte de processus d'autofragmentation interne par division de ces cellules de spécialisation. L'interdisciplinarité est à cet égard un idéal d'ouverture auquel la grande majorité des scientifiques consentent, acquiescent ou travaillent, mais par définition ici, le volontarisme ne suffit pas. On ne peut pas se déclarer simplement amateur et producteur d'interdisciplinarité. Le savoir interdisciplinaire ne peut pas se construire sur le modèle du savoir disciplinaire, sinon il revendiquerait une sorte d'extraterritorialité trop commode. Il doit donc être mis en tension avec le travail de découverte. La troisième espèce de savoir, c'est celle de l'application, et c'est celle qui met en avant les retombées utiles et fécondes du travail académique au-delà de ses frontières, dans la communauté sociale et économique où il a lieu. C'est sans doute l'un des points de clivage entre des traditions culturelles différentes, non seulement entre les pays, mais entre les disciplines. La tension est entre la culture du développement du savoir pour lui-même et la culture de la mise en relation de ce savoir et de sa production avec son environnement social et économique. À cet égard, les États-Unis, qui sont un pays de controverse autour de ce qu'on appelle l'academic entrepreneurialism, l'entrepreneuriat académique, en quelque sorte, la transformation d'un académique en un entrepreneur, à travers l'application de ses recherches dans le monde industriel, dans la création de start-up et dans beaucoup d'autres formules d'exploitation de la connaissance, ce pays est aussi le pays des liens les plus nombreux entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche partenariale. Bref, le pays de la mise en relation plus symbiotique entre la dynamique d'invention et la dynamique d'innovation. Il suffit d'aller sur les sites des grandes universités américaines, Harvard, MIT, Stanford, pour comprendre ce mécanisme. Il suffit d'observer la montée en puissance d'universités comme Stanford actuellement, qui est au cœur de la Silicon Valley, et donc au cœur du bouillonnement des révolutions technologiques et numériques, pour mesurer le phénomène. Le dernier savoir dans cette distinction, c'est celui de l'enseignement. Et donc, il nous fait avancer, évidemment, vers une conception fonctionnelle du travail du savoir, puisque son utilité se mesure à l'efficacité de sa transmission. Mais une définition simplement fonctionnelle priverait l'activité d'enseignement de certaines des qualités essentielles de ce que peut être le savoir s'il a un sens générique. D'où l'insistance qui est mise dans l'activité d'enseignement sur la dynamique de l'échange, sur la communication pédagogique, autrement dit sur la double directionnalité de celui-ci, de l'activité. L'enseignement déclenche un processus d'apprentissage chez l'étudiant, mais l'étudiant, dans de bonnes conditions de communication pédagogique et de travail pédagogique, et couplé à de la recherche, peut aussi stimuler l'enseignant par ses capacités critiques, par son inventivité, par ses perspectives propres. Tout ça est l'objet précisément des modèles d'enseignement et de leurs différences et de leur attractivité relative. Bref, l'interaction doit pouvoir produire davantage que ce que l'assimilation de l'enseignement à une situation asymétrique entre un sachant et un apprenant laisse supposer. Je reviendrai sur cette sorte de contrat bilatéral que peut constituer la relation pédagogique un peu plus tard. Alors, la conclusion de cette décomposition du savoir en ces différentes espèces, c'est dans ce modèle que l'inventivité du chercheur est fécondée par un travail d'enseignant qu'il doit aussi accomplir. Et l'interpolation des perspectives, je dois espérer et savoir recevoir de mes étudiants ce qu'ils peuvent m'apprendre, tout comme je dois délivrer mon enseignement pour les sortir d'une réception passive d'un savoir inculqué. Cette interpolation des perspectives nourrit l'idéal de complémentarité que j'évoquais, mais en le projetant aussi sur la situation même de la formation du savant. Après tout, un savant, aucune expérience ne lui est plus intime que l'association et la tension entre apprendre et inventer, entre être formé et se développer, avoir un mentor et développer sa propre originalité. L'autre déduction logique de cette conception multiple du savoir est que le corps professoral est, ce qu'on pourrait appeler un peu rapidement, une mosaïque de talents. La caractérisation multidimensionnelle du savoir se prête à une conception horizontale de la différenciation des capacités individuelles et des qualités individuelles qui complète et pour partie contredit la métrique simplement verticale de hiérarchisation des académiques, des enseignants, selon la dimension et la capacité de recherche. Ces points sont l'objet d'incessants débats et négociations individuelles et collectives. Alors, pour conclure ce point, je voudrais souligner trois points clés qui vont me permettre d'embrayer sur la suite. L'association enseignement-recherche, des tâches plus complémentaires que rivales, même si les performances dans chacune d'elles ne peuvent être éventuellement que faiblement corrélées. Les variations dans cette association selon le niveau d'études, l'enseignement se rapproche de la recherche à mesure qu'on s'élève dans les cycles d'études supérieures. Et enfin, la fonction de production éducative, les tâches des enseignants et celles des étudiants sont à prendre en compte, les ressources publiques, les ressources propres des établissements, l'architecture organisationnelle des établissements, toutes ces variables engendrent des écarts considérables de rang, d'efficacité et de prestige. Voilà à peu près la synthèse des connaissances qui m'était nécessaire à vous présenter pour démarrer le cours cette année.
Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre-Michel Minguer, la production du savoir, carrière, discipline et organisation.
Alors, ce cours, il est consacré cette année principalement à la France. Un autre problème qui est essentiel, c'est qu'il existe bien en France ce qu'on peut appeler un modèle ou une modalité particulière de stratification. Les universités, le système universitaire a été construit en France, à la fois il s'est développé à partir d'un centre, Paris, qui captait l'essentiel du prestige, mais l'expansion du système universitaire a été réalisée sous une condition d'équivalence des diplômes, donc de non-rivalité des universités sur la valeur de leurs diplômes et en même temps de hiérarchie implicite en fonction de la qualité des enseignants, de la puissance des établissements et du type d'étudiants et de formation qu'on y offrait. Mais il n'est pas question, a priori, dans le monde universitaire, de stratification explicite comme c'est le cas dans un système américain ou par exemple maintenant un système anglais. Pourtant, il y a bien autre chose, c'est ce fameux dualisme, le dualisme université-grandes écoles, qui est lui-même couplé à un autre dualisme, qui est le dualisme université-établissement de recherche. Alors, je vais m'intéresser essentiellement au dualisme université-grandes écoles et à la situation respective des universités et des grandes écoles face aux deux vagues successives de massification de l'enseignement supérieur. Vu depuis le point de vue de la valeur des formations, les recherches conduisent toujours à une conclusion extrêmement robuste. Le rendement des filières sélectives est demeuré toujours plus élevé que celui des autres formations supérieures universitaires de durée équivalente. Je vais examiner plusieurs des hypothèses qui ont été avancées pour l'expliquer. S'agit-il, pour contraster deux hypothèses et vous donner une idée, s'agit-il simplement de la valeur de la technologie éducative de l'un et l'autre système, ou bien s'agit-il d'une forme de signal qui est transmis par une des composantes qui défend une marque, et la valeur d'une marque est qui s'assure auprès de la communauté des employeurs et de la société et des entreprises, pardon, qui s'assure de l'insertion des diplômés détenteurs de cette marque qui obtiennent une rémunération supérieure sur la simple efficacité de la valeur de signalement d'un diplôme plus sélectif. Ces questions doivent être examinées avec précision. Pour approcher la valeur de la technologie éducative de l'enseignement supérieur et de ses différentes composantes, et donc aussi des grandes écoles, j'examinerai sur la base des travaux qui sont menés avec mon équipe, j'examinerai la structure des emplois dans les différentes composantes de l'enseignement supérieur. Elle est extrêmement révélatrice. Les données portent sur la période 1984-2014, mais l'histoire des problèmes qui peuvent être abordés est beaucoup plus longue. Elle remonte au XIXe siècle et elle connaît d'ailleurs aussi un regain d'actualité à travers le mot d'ordre nouveau qui est celui d'un bloc à constituer qui s'intitulera Bac-3, Bac+3. Autrement dit, de redistribuer la carte de la séparation entre enseignement secondaire et enseignement supérieur. Et puis je présenterai une étude de cas que j'ai menée avec certains membres de mon équipe. C'est l'étude de l'organisation et de la compétition dans une des sphères des grandes écoles, c'est-à-dire les grandes écoles de commerce. Pourquoi celle-là ? Parce qu'elles ont la particularité de combiner, plus que d'autres et avant les autres, des traits du système américain d'enseignement supérieur et des traits typique du système français d'enseignement supérieur, de financement d'une modalité particulière de cet enseignement. L'ancrage de ces écoles remonte au XIXe siècle. En fait, il s'agit de vérifier comment sont couplées une plus grande autonomie de gestion des personnels enseignants, l'internationalisation élevée du recrutement et des enseignants et des étudiants, et la structure particulière des ressources des établissements. Ces points sont corrélés et ils seront aussi la matière d'une série de développements conclusifs du cours qui déborderont le simple cas des écoles de commerce. Car ces facteurs, selon un certain nombre de modèles théoriques récents, s'ils sont bien alignés, ces différents facteurs, sont réputés élever la performance des établissements. Mon analyse prendra en compte la forte stratification interne de ce groupe d'écoles et montrera comment les innovations dans la technologie pédagogique percolent, ruissellent, depuis les écoles leaders jusqu'à la base, à la faveur notamment de l'académisation du corps enseignant et de l'internationalisation du recrutement des enseignants et des étudiants. Je vais en venir maintenant à ce dualisme que j'évoquais à l'instant, ou ces deux dualismes. L'organisation de l'enseignement supérieur comporte parmi donc une grande diversité d'établissements, deux catégories sur lesquelles s'est concentré l'essentiel des analyses, universités d'une part et grandes écoles et classes préparatoires de l'autre. On peut adopter en fait une autre caractérisation qui modifierait la perspective d'analyse, celle qui distinguerait des filières sélectives de filières non sélectives. Et dans ce cas-là, la sélectivité peut-être aussi une affaire de différenciation plus horizontale. Autrement dit, on peut distinguer des voies sur lesquelles les étudiants s'engagent et qui ne s'emboîtent pas hiérarchiquement. Il existe, je veux parler notamment des filières sélectives courtes et professionnalisantes, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie, qui ont connu un grand succès dans l'enseignement supérieur, et qui sont arrimés à des dispositifs sélectifs de recrutement et à des technologies éducatives particulières et d'ailleurs plus coûteuses que les formations universitaires par étudiant, le coût par étudiant. Mais il faut d'ailleurs aussi noter que ces diplômés, par exemple les diplômés des instituts universitaires de technologie, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme universitaire de technologie, prolongent maintenant massivement leurs études par d'autres études en université. Ce qui en dit long, au passage, sur les trajectoires obliques de sélectivité qu'entreprennent ou dans lesquelles circulent les étudiants au sein du système universitaire. À l'autre pôle qui s'oppose à celui de ces filières courtes, il y a donc les filières sélectives longues, avec admission sur dossier dans les classes préparatoires, puis admission aux grandes écoles sur concours, ou complémentairement, admission sur dossier par voie parallèle, qui se sont beaucoup développées. Ça, je le montrerai notamment à propos de l'exemple des écoles de commerce, mais c'est beaucoup plus général aussi dans les écoles d'ingénieurs et d'autres. On a augmenté la population des étudiants admis parallèlement, qui sont à la fois une bonne manière pour diminuer la sélectivité, mais aussi une source de ressources à travers les frais d'inscription qui sont élevés pour augmenter l'autonomie et la capacité de financement de ces établissements. Alors, j'emploie ce terme de sélection ou de sélectivité. Les grandes écoles ou les formations sélectives courtes en sont l'exemple le plus simple. Mais en fait, il existe bien des manières de pratiquer ce mécanisme au sein du système universitaire. D'abord, il y a cette forme verticale simple de sélectivité qui est les taux de transition entre les différents niveaux d'études. Je vais y revenir plus tard. Cette transition sélective d'un niveau d'études à l'autre, elle est par exemple tout à fait officielle et admise dans l'accès en deuxième année de médecine. Un étudiant sur quatre environ est admis en deuxième année de médecine. Et elle est très fréquente en pratique, mais elle est juridiquement contestée pour l'accès en deuxième année de master. Au-delà, il existe une grande variété de formules et de pratiques de sélection au sein du système universitaire. Et donc, évidemment, toute la technologie de la sélectivité est là, les mentions au bac, le taux, 1600 candidatures, dit une responsable de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, via le portail Mission Post-Bac, pour 60 places, etc. Ou 4000 candidatures en sciences politiques et histoire pour 100 places. Donc, vous voyez, on est bien dans un contexte de sélectivité. Évidemment, on couple ça avec le rythme et la quantité de travail qui sont exigés, qui sont 150% d'une année classique. Et l'argument est de mettre cette sélectivité en contraste avec les classes préparatoires, puisque, en quelque sorte, on aurait le meilleur des deux mondes, du moins dans l'argumentaire de la responsable. Le meilleur des deux mondes, on aurait une homogénéité par le niveau ou les qualités des étudiants recrutés, mention bac, etc., motivation au travail, et en même temps, on n'a pas l'esprit de compétition qui plombe les classes préparatoires, ou du moins qui plombe aussi l'échéance finale, c'est-à-dire la réussite ou non au concours. Donc, il y a un esprit promo, mais il n'y a pas de compétition. Bon. Et finalement, obtenir cette double licence permet d'avoir une palette de masters qui est plus large. Alors, deuxième filière, les écoles de droit. Ici sont cités des propos du président de Toulouse 1, Bruno Cyr, un diplôme universitaire de droit qui est en plus du diplôme classique. Et donc, l'idée est de trier des étudiants sur le volet, de proposer une formation d'excellence. La sélection a lieu après le bac ou au cours de la licence pour entrer en master, et l'argument, c'est d'adresser à des étudiants dont le potentiel de travail est supérieur à la moyenne, avec un parcours renforcé dans certaines matières. C'est un diplôme d'université, donc c'est un diplôme spécifique. Et là aussi, il facilite l'accès aux masters les plus réputés. Troisième modalité, c'est les instituts administratifs des affaires, d'administration des affaires, qui sont des équivalents ou des tentatives d'équivalents au sein des universités de ce que sont les écoles de commerce et de management. Et là aussi, ce sont des filières sélectives. La sélection varie selon l'établissement, mais elle existe bien et les chiffres sont donnés ici. Évidemment, le problème, c'est qu'elle ne concurrence pas directement les meilleurs des écoles, mais elles peuvent en concurrencer d'autres qui sont situées plus bas dans la hiérarchie des écoles de commerce, des écoles supérieures de commerce, c'est-à-dire celles qui recrutent par concours, et pour un coût imbattable, puisqu'elles sont beaucoup moins chères. Là où les écoles avec lesquelles elles peuvent se rivaliser demandent 8 ou 9 000 euros de frais annuels d'inscription, ici on en demande entre 190 et 260. Donc vous voyez l'écart spectaculaire coût-bénéfice qui est du moins avancé ici. Et puis il y a le dernier exemple qui sont les prépas universitaires ou des prépas intégrés non universitaires qui constituent une alternative aux classes préparatoires. On en trouve différentes variétés aujourd'hui. Il en existe une également au sein de l'ensemble Paris Sciences et Lettres dans lequel se situe selon une modalité particulière, le Collège de France, c'est ce qu'on appelle une CPES, c'est-à-dire une classe préparatoire aux études supérieures, qui ne recrute pas de la même manière qu'une classe préparatoire aux grandes écoles. Mais il existe ce qui s'appelle des prépas intégrés, c'est-à-dire des prépas qui sont attachés à des écoles d'ingénieurs, notamment, et là aussi, qui pratiquent une sélection à l'entrée. Bref, vous voyez que les formules de sélectivité sont assez nombreuses, et que le paysage est plus complexe qu'un simple dualisme. Mais c'est le dualisme université-grandes écoles qui a été le plus analysé par les sociologues. Et comme je l'ai dit, c'est ce qu'on peut appeler la modalité française de stratification du système d'enseignement supérieur. Je ne dirai rien ici de l'autre dualisme, c'est-à-dire séparation université-établissement de recherche. Ce dualisme-là, il est beaucoup moins étudiable parce que nous n'avons pas de données accessibles sur les personnels et les performances du système de recherche dans ces établissements, des données qui soient équivalentes en qualité et accessibilité à celles qui permettent d'étudier le système d'enseignement supérieur, ces universités et ces universitaires. C'est-à-dire que nous pouvons le faire, nous, parce que nous avons accès à des données sur les universitaires, mais pour ce qui est de la composante établissement de recherche, nous ne pouvons pas. Ça n'est pas faute de vouloir, mais c'est parce que les établissements, peut-être, se protègent davantage. Alors, ces analyses sur les grandes écoles, elles ont beaucoup porté sur les inégalités sociales d'accès. Je vous indique brièvement le problème. Les filtres sélectifs à l'entrée dans le supérieur via les classes préparatoires ne font qu'amplifier un mécanisme socialement sélectif qui a cours dès l'enseignement secondaire et dont les propriétés et le fonctionnement se sont modifiés mais sans s'affaiblir à l'ère de la massification scolaire. Ensuite, les analyses mettent en évidence le contrôle des emplois supérieurs de la sphère publique à travers ces grands corps et leur lien avec les emplois des cadres dirigeants des grandes entreprises, c'est notamment le thème du livre de Pierre Bourdieu, La noblesse d'État, via l'identification du diplôme des grandes écoles à un titre dont la rareté et la valeur sont mesurées à l'intensité de la sélection pratiquée. Mesurées aussi à la position relative de chaque école dans la hiérarchie de l'ensemble des écoles, mesuré à la qualité professionnelle des détenteurs du diplôme qui forment la communauté des anciens élèves et qui constituent un capital de ressources relationnelles, de ressources de donations, de dons à l'égard de l'école quand on en est un alumnus contributeur et de bien d'autres ressources, et mesuré à la puissance des mécanismes de cooptation ou de préférence sélective qui sont actionnés par les détenteurs du titre considéré dans des différents épisodes de leur vie professionnelle, par exemple à l'occasion des recrutements ou des mobilités. Donc, le problème qui est désigné ici, c'est que ces écoles disposent d'une rente, elles sélectionnent leur public, elles dépensent davantage pour former leurs étudiants. Le coût d'un étudiant de classe préparatoire est d'environ 40% supérieur à celui d'un étudiant en université, mais celui d'un étudiant de section de technicien supérieur est lui-même supérieur à celui d'un étudiant en université. Ces écoles ont aussi plus d'autonomie pour former leur public étudiant et, point décisif, elles disposent bien de la stabilité de l'architecture des grands corps d'État en France. Donc on ne peut pas désolidariser l'analyse de la stratification des systèmes d'enseignement, de l'architecture générale, des emplois dans les sphères publiques et privées et des relations entre les sphères publiques et privées, comme on le voit ici. Alors, ce qui est plus complexe, c'est évidemment la question de l'efficacité et des limites de ce dualisme. On peut évidemment admettre que des élites administratives, managériales, scientifiques, politiques peuvent être produites par une diversité de systèmes de formation supérieure. Et la question que suscite la dualisation à la française, c'est de savoir s'il s'agit d'un système qui est performant ou sous-performant sous les deux dimensions qui ne se recouvrent pas, de l'efficacité et de l'équité, ou si ce système est plus performant sur une dimension que sur l'autre. Ou encore, on peut demander, et c'est le thème de beaucoup de travaux, si ces performances ne s'affaiblissent pas en raison des changements dans l'environnement éducatif, scientifique, technologique, dans lequel le système est immergé au plan international et auquel il pourrait être mal conçu pour s'ajuster, sauf à se transformer assez profondément. C'est le thème de l'incessante série de transformations et de controverses qui existent actuellement pour voir se recomposer ce système dans des communautés d'universités, la plus extraordinaire en date étant l'affaire du plateau de Saclay, qui doit absorber ou qui doit intégrer un établissement comme l'École Polytechnique. Et l'École Polytechnique cherche à se définir selon son identité en étant rapproché sans être fusionné. Mais si je réunis un instant ces deux dualismes, qu'est-ce qu'ils contiennent en commun, je veux dire université et grandes écoles et université et recherche? En fait, ce qu'ils contiennent de commun, c'est un double principe d'écrémage. Les établissements de recherche proposent d'offrir de bonnes conditions de travail pour accomplir le travail de recherche, qui est la partie la plus exigeante du travail académique, en temps et en ressources, en prise de risque, en tolérance à l'incertitude et à la concurrence. Ces établissements de recherche doivent aussi écrémer une partie, doivent donc écrémer une partie significative des meilleurs candidats à une carrière académique. Du côté du dualisme numéro 2, les grandes écoles, puisqu'elles opèrent par concours sélectif, écrèment la partie supérieure de la distribution des étudiants si on les classe par leur niveau de performance scolaire. Mais les grandes écoles n'étaient pas conçues initialement pour produire de la recherche avec la même intensité que les universités ou les établissements de recherche. En fait, c'est par la multiplicité des liaisons qu'elles ont progressivement établies avec les universités et avec les institutions de recherche que ces écoles ont progressivement cherché à faire se rejoindre les deux versants de ce qui est le cœur d'un système stratifié et sélectif d'appariement entre hiérarchie des établissements, notamment en matière de recherche, et niveau des étudiants. Et les réformes actuelles qui rapprochent ces différentes composantes dans des ensembles à vocation plus ou moins efficacement intégratrice sont une tentative de rationalisation de cette évolution. La difficulté qui apparaît, dont j'ai mentionné à l'instant un exemple à travers la question du plateau de Saclay, où le défi, si on veut, c'est celui de la coévolution des modèles dont relève chacune de ses composantes. Modèle de l'université, modèle de la grande école, modèle des établissements de recherche. S'ils sont désormais davantage rapprochés, sont-ils donc juxtaposés? Sont-ils en voie de transformation réciproque ou en voie de fusion? Mais je voudrais, avant ça, dire un mot de la position de tous les acteurs du jeu, et notamment des enseignants eux-mêmes. Les enseignants, que sont-ils? Ils sont à la fois les acteurs de la démocratisation scolaire et universitaire, et donc aussi des acteurs de la contribution de l'éducation à la croissance économique, mais aussi à la démocratie sociale et politique. Leur activité dans l'enseignement supérieur, donc dans un système à double tâche, doit, pour être accomplie avec des bonnes chances d'équilibre, être organisée selon une technologie éducative qui rende la recherche et l'enseignement plus complémentaires que rivaux, je l'ai dit. Ils ont donc intérêt à la sélectivité des formations si cela augmente leur capacité de recherche et la qualité de la transmission pédagogique. Un public étudiant plus motivé, plus interactif, plus apprenant, y compris par des formes de pédagogie inversée. Les détails que j'ai donnés sur les différentes filières sélectives de l'université vous le disaient très bien. Mais enfin, par ailleurs, et pour finir, ces enseignants sont aussi eux-mêmes des acteurs privés, consommateurs du système d'enseignement en tant que parents d'élèves et parents d'étudiants. Et à ce titre, les enseignants sont des insiders virtuoses. Ils sont parmi ceux qui tirent le rendement le plus élevé du système le plus sélectif, c'est-à-dire celui de l'admission dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles. On le mesure à la surreprésentation des enfants d'enseignants dans ces filières sélectives longues. Et quant aux étudiants, la question de la qualité de la technologie éducative est évidemment décisive aux deux pôles sélectifs opposés de l'enseignement supérieur, les formations courtes et les formations sélectives longues. Les étudiants des formations non sélectives, eux, font face à une situation de sélection endogène. Leurs chances d'avancer varient selon leurs propres caractéristiques, selon les caractéristiques de leurs pairs et selon les caractéristiques du travail pédagogique, c'est-à-dire le nombre et la qualité des enseignants, les taux d'encadrement, la qualité de la transmission pédagogique, l'interaction ou la distance ou la proximité avec les activités de recherche et évidemment selon les caractéristiques d'organisation des filières et des établissements. Autrement dit, la demande de sélectivité couplée à une organisation éducative de qualité peut être présente dans des stratégies individuelles, alors que la contestation de la sélectivité est présente dans des stratégies collectives. Et, comme je l'ai indiqué plus haut, la réalité des enseignements universitaires est donc beaucoup plus complexe que l'opposition binaire entre sélectif et non sélectif. Que ce soit vu du point de vue de l'architecture du système, autant que du point de vue du comportement des acteurs eux-mêmes dans le système.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Pierre-Michel Minguer, La production du savoir, carrière, discipline et organisation, le 15 janvier 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minguer. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014. Son livre « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain » paru en 2009, a été publié en Point Seuil en 2014. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Moneghetti. Demain, nous poursuivrons le cours de Pierre-Michel Minguer, La production du savoir, carrière, disciplines et organisations. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture. Thank you.